FM 93.
Dans Bouchard en parle.
Nos manchettes du jour.
14h23, qu'est-ce qui nous a inspiré dans l'actualité, dans notre environnement, dans notre vie? C'est quoi les manchettes du jour? On commence avec Marie-France.
Je vous ai caché quelque chose.
Oh, ça va brasser. Est-ce que c'est ce que je pense ou...
Ben, ça dépend à quoi tu penses.
Parce que tu nous as quand même fait un aveu tantôt, là. On a su un secret, là.
Tu t'en vas-tu?
Est-ce que tu t'en vas là tout de suite ou...
Ben, est-ce que j'ose?
Non, il y a du suspense. Qu'est-ce que c'est ça?
Ben, tu nous en parlais plus tard.
Non, c'est sa manchette. Okay. On va respecter ça. J'ai hâte de voir. Parce que Marie-France nous a avoué de quoi d'embarrassant tout à l'heure. Ben... Je me demande si tu t'en vas là tout de suite. Jean-Simon, ta manchette.
Bébé surprise. Non, j'annonce rien.
Ouais, c'est ça.
Pendant deux secondes. Ouais.
Mais non, Marie-Lou n'est pas enceinte, tout le monde. Pas okay. Fausse alerte. Non, on se calme.
Hey.
Il n'y a pas de shower qui s'en vient. Tout. Mais c'est ma manchette pareil. Bébé surprise.
OK. Ma manchette à moi, ben c'est juste une manchette. Vu qu'hier, j'ai parlé beaucoup, je pense, même qu'on a sauté ta manchette, Jean-Simon, je pensais-tu
hier? Oui, absolument. Alors, ça tombait, t'es pas bonne.
tout va être dit dans ma manchette.
Okay.
Arrêtez de faire des sushis trop gros, OK? Ça se coupe très mal au couteau, pis c'est dur à manger en maudit. Faites des beaux petits maquis bien faits, sinon c'est vraiment agaçant.
Bon,
merci beaucoup.
Sylvain,
bonsoir.
Là, c'est assez pour vrai. Là, je commence. Là, j'ai un protège parce que tes manchettes depuis trois semaines, c'est des éditoriaux, c'est pas des manchettes.
Non, mais tout est là. T'sais, j'ai fait la manchette, puis j'ai pas besoin d'en rajouter.
Comme c'est plate. Tu pourras plus participer aux manchettes, là, Sylvain.
Non,
tu dénatures le segment.
C'est une grosse manchette, mais.
C'est ce que t'as manqué, Sylvain, qui essayait de manger son sushi. Toi, t'étais parti chercher justement à manger. Mais
ouais, t'as pas là, lui.
T'as pas vu Sylvain avec ses baguettes?
En passant, est-ce que vous suivez l'émission Les Chefs? Moi, j'adore ça.
Oui.
Bon, v'là deux semaines, je pense, il y avait un grand chef japonais là, qui était là. Puis ils ont fait des makis. Puis il y avait un grand chef japonais comme juge qui s'ajoutait à Jean-Luc Boulay, puis Normand Laprise, puis la gang. Puis là, les candidats devaient faire des makis, puis ils montraient là, comment presser ça, puis il faut être bien équilibré dans ce que tu mets à l'intérieur, puis c'est important d'avoir un équilibre, tout ça. En tout cas, bon. Fait que ceux qui ont besoin d'aide, allez voir ça. Moi, je suis pas bon là-dedans, mais je trouve qu'il y a une mode ces temps-ci. Tu sais, ils rajoutent toutes sortes de produits dans les sushis, puis c'est bien à la mode. Mais à un moment donné, quand c'est trop gros, là, oh, mais là, couplé qu'un couteau, ça se coupe pas, ça se défait tout, l'algue, le riz. Puis, bon, ils devraient avoir une norme. ISO 9001 sur la grosseur des sushis.
Une
trop
norme,
gros, on a ça.
Une norme, c'est sushis.
Voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. On va y aller avec Jean-Simon. Je garde Marie-France pour la fin.
Alors, bébé surprise, vendredi dernier, Elisabeth et moi, on vous a parlé d'un documentaire qui venait de sortir à CBC qui s'appelait The Walrus and the Whistleblower, le morse et le sonneur d'alerte. On était premier en passant, premier média francophone à parler du documentaire qui est pourtant canadien. D'ailleurs, personne qui en a parlé et je comprends pas trop pourquoi. C'est un documentaire d'enquête sur Marineland, le fameux parc aquatique. Et là-dedans, il y a des révélations assez troublantes sur la manière dont les animaux ont été traités. Le protagoniste principal, le sonneur d'alerte, c'est Phil Demers, qui lui était un ancien employé de Marineland, s'est attaché extrêmement fort à une morse femelle qui s'appelle Smushy, au point où, et ça arrive avec certaines espèces animales, lorsqu'il y a un moment très très fort entre un être humain et un animal, il y a une espèce de, ils appellent ça une imprégnation en quelque sorte, l'animal pense que t'es sa mère.
Ah.
Et c'est ce qui est arrivé avec Smushy. Smushy pense que Phil Demers, c'est sa mère. Alors, il est devenu rapidement très important pour Marineland. Et à un moment donné, il a quitté fracas parce qu'il était plus capable des traitements des animaux. Puis il y a des images dans le documentaire. Je vous invite à aller le voir, là, The Walrus and the Whistleblower.
Sur
Internet, sur CBC, sans problème. Vous pouvez voir le documentaire. Okay. Ça se trouve, il est en anglais, il n'est pas en français pour l'instant.
Okay.
Mais ça vaut la peine de le voir. Et le documentaire, sans vous voler de punch, se termine toujours dans la lutte de Philippe Demers pour revoir Smushy parce qu'évidemment, il ne peut plus voir sa morse vu qu'il travaille plus là puis qu'il y a des litiges incroyables avec Marineland présentement. Mais là, coup de théâtre, parce qu'à ce moment-là...
Ça va être quoi? Ça va finir que Carole Baskins va tout ramasser. Ouais, c'est elle qui va avoir Marineland. Puis là, comme par hasard, son mari tombe dans l'eau puis on le revoit plus jamais. OK, c'est un inside pour ceux qui ont vu Tiger King. C'est juste un inside. Vous irez voir, si vous cherchez une série capotée sur Netflix, allez voir Tiger King. Si vous n'avez pas saisi l'inside, désolé.
Ouais, mais The Walrus and the Whistleblower, c'est le Tiger King des animaux aquatiques, là, si vous voulez une comparaison. Okay. Là, ça va vous faire le même effet que pour les grands félins, mais pour les baleines puis les phoques. Toute la quête. Donc, tout ça pour dire que Phil Demers, à la fin du documentaire, ça fait presque un an qu'il n'y a pas eu de nouvelles de Smushy. Donc, il s'inquiète beaucoup. Es-tu vivante? Vas-tu bien? Ben là, Marineland vient de publier un communiqué de presse dans lequel il indique que Smushy vient d'avoir un bébé. Elle a accouché il y a de ça une semaine à peu près. Non, le 1er juin, donc ça, c'est lundi. Smushi, c'est un morse de 2000 livres et son bébé pèse à peu près 100 livres. Donc, c'est pas le genre le même genre que des bébés humains. Là, vous comprenez que c'est très, très lourd, même à la naissance. Alors, ça, c'est une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle en même temps parce que je suis allé voir la réaction de Phil Demers. Lui, il n'est pas particulièrement content parce que lui, il est contre le fait qu'il accouple encore des morses puis qu'il y a encore des grossesses du côté de Maryland. D'autant plus que dans le documentaire, on apprend qu'il y avait 5 morses à Maryland. Il y en a 4 qui sont morts. Donc, il restait Smushy, la femelle. Donc, vous comprenez que pour qu'elle ait un bébé, il faut comme qu'il y ait eu un contact avec un autre morse à quelque part. Là. Ça se fait pas. Je pense pas que ce soit l'Immaculée Conception. Là. Visiblement, il s'est passé quelque chose avec un morse. Alors, Phil Demers n'est pas très content de la nouvelle. Et là, ben, il poursuit sa quête. Et là, maintenant, il veut récupérer non plus un morse parce qu'il voulait récupérer Smushy, qu'il considère comme son enfant, mais maintenant son petit enfant aussi, c'est-à-dire le bébé morse de Smushy.
Mais il reproche quoi à Maryland? Parce que là, les gens qui nous écoutent, là, les parcs aquatiques, marins, en général, on s'imagine qu'ils aiment les animaux, sont bien traités, que ce soit l'aquarium, là, je ne veux pas tout mélanger,
pas tout
là,
dans
peut-être qu'il y a des endroits où tout est correct, mais tu sais, l'aquarium, etc. Il reproche quoi à Maryland, Jean-Simon? Un petit résumé, là.
Ouais, un résumé. Ben, dans le documentaire, on voit des animaux avec des blessures. Les animaux sont affamés pour mieux performer lors de leur spectacle, notamment les phoques. D'ailleurs, Phil Demers, dans le documentaire, dit que pour n'importe quelle performance de genre-là, le seul moyen, c'est d'affamer les animaux. Sinon, la nourriture est pas assez attrayante. À un moment donné, ils mettent trop de chlore dans l'eau, ce qui fait en sorte que les animaux se retrouvent avec la peau déteinte, des plaies ouvertes. Béant, c'est à ce moment-là qu'il est parti parce que le propriétaire voulait rien faire. Il y a vraiment des images très, très choquantes. Et d'ailleurs, vous savez que depuis à peu près 2 ans, c'est interdit de garder en captivité des baleines, des dauphins ou des marsouins. Donc, tout ce qui est type baleine, dauphin, mais c'est pas encore le cas pour les phoques et les morses. Ça n'a pas été inclus là-dedans. Donc, il reste encore ces mammifères-là, mais ils n'ont plus le droit. Les épaulards, les willies, là, c'est terminé. Toutes ces affaires-là, parce qu'on sait qu'il y a des mauvais traitements. Alors, le Canada a été parmi les premiers pays à légiférer dans ce sens-là, notamment en raison de la sortie de Philippe de dans les médias. Il a travaillé très, très fort par rapport à ça. Et là, il dit, ben là, vous l'avez fait pour les épaulards, les baleines. Ben moi, je vous confirme que les morses puis les phoques sont pas mieux traités.
Mais là, t'as peu, à l'aquarium à Québec, il y en a des shows?
Oui, il y en a.
Il y en a-tu encore?
Il y en a encore normalement au dernier.
Est-ce qu'ils affament les
je me prononce pas
animaux?
Là-dessus.
Non, c'est une question. Est-ce qu'ils affament les animaux pour qu'ils performent?
Moi, ce que j'ai posé comme question à Philippe Demers, que j'ai dit parce qu'on a passé une entrevue avec lui vendredi, j'ai demandé, Phil, t'as dit dans le documentaire que c'était le seul moyen qu'ils performent. Est-ce que tu me confirmes que dans tous les établissements, que ce soit des eaux des aquariums, des parcs aquatiques, c'est la stratégie qui est employée? Il a dit absolument. Il dit c'est le seul moyen. Il dit ça veut pas dire que les employés sont 100% conscients de ce qu'ils font, mais avec les règles qui sont en place, avec les rations que les animaux ont, outre les poissons qu'ils peuvent avoir pendant le spectacle, il dit c'est le seul moyen. Il dit je sais, je l'ai fait moi-même, là.
Mais pourquoi on pose pas la question aux gens de l'Aquarium de Québec?
Il faudrait.
Parce que c'est pas moi qui vais répondre, là. Moi, je les accuse de rien. Lui, on a un gars, le crédible, documentaire, qui dit qu'ils affament les animaux pour qu'ils puissent vraiment, comment je pourrais dire ça? Ils ont tellement faim des poissons de ce qu'ils leur donnent, là, qu'ils sont prêts à faire toutes sortes d'acrobaties. Est-ce que j'ai bien compris?
Ouais,
qu'étant
affamés,
ils sont prêts à faire un peu n'importe quoi, là.
Ben, il m'a dit, grosso modo, toi, mettons, là, que je te mets en face, je sais pas, moi, un cheeseburger, là, puis je te dis, saute, là. Si t'as pas faim, puis t'as déjà mangé, puis t'as mangé tes 3 repas par jour, vas-tu sauter pour le cheeseburger? J'ai dit, mais non.
Un cheeseburger.
Oui, Homer sauterait.
Alors, Homer sauterait.
Homer, il sauterait, ça, c'est
je comprends ton point, mais si je suis vraiment affamé, tout ça, m'a peut-être faire une couple de niaiseries pour avoir mon cheeseburger.
C'est ça.
OK, bon, on va essayer de faire un suivi parce que c'est peut-être pas répandu. Moi, je veux être bon joueur, là. Peut-être qu'il y a des endroits où ils ont trouvé d'autres méthodes. Je sais pas, lui, il dit ça, mais je peux pas croire que c'est le même partout. S'il y a des gens qui veulent nous donner déjà de l'information, allez-y sur 25226. Donc, il y a eu un bébé surprise dans ce cas-là, mais le documentaire, donc, demeure pertinent sur CBC. On peut trouver ça sur le web.
Oui, absolument.
Ce sera pas long, Marie-France, juste avant. On a-tu des nouvelles d'Ulysse?
Ah, attends, je vais vérifier.
La baleine qu'on a baptisée au FM 93, Ulysse, qu'on a vu passer à Québec, vous en souvenez, la vidéo, après ça, Portneuf, Trois-Rivières, Montréal, Vieux-Port. Moi, ça fait au moins 24 heures sur les internets que j'ai rien vu, là. La dernière fois, on a jasé avec une spécialiste, elle nous avait dit, on va essayer. On va peut-être essayer de la faire virer de bord, mais c'est gros, puis ça se peut que ça se termine mal. Elle le souhaite pas, évidemment, mais ça se peut qu'elle finisse échouée parce que, évidemment, dans ces eaux-là, là, c'est vraiment pas un milieu qui est adéquat pour elle. Aux dernières nouvelles, elle était en santé, mais ça remonte à au moins 2 jours.
Ben, elle est encore, là, aux dernières nouvelles, elle serait allée dans le coin des Rapides, puis après ça, elle serait revenue encore dans le Vieux-Port, mais elle est encore à Montréal pour l'instant. Ulysse n'a pas changé de direction encore pour aller vers Tadoussac, toujours dans le coin de Montréal, un séjour qui se prolonge dans la métropole pour elle. Hey, d'ailleurs,
GPS. Vous le dites tout le temps, fiez-vous pas au GPS. Ouais. Je suis sûr que c'est ça. Là, elle a dû écouter son GPS, puis m'amener les gardes. C'est vraiment ça, là.
Dans 200 mètres, tournez à votre droite.
Oui, c'est ça qui est arrivé. Oui, Jasmin. Oui,
c'est Jonathan Bernard qui vient de nous donner ça, mais je ne savais pas que ça existait. Là. Mais Damien Robitaille, apparemment, a écrit une chanson qui s'appelle Humpback Get Back, c'est-à-dire Baleine Abbas revient. Alors, je ne sais pas du tout comment ça sonne, mais Jean l'a en stock. Fait qu'écoutons
Damien Robitaille a écrit une chanson sur la fameuse baleine
mais
Ulysse.
C'est-tu sur elle? C'est sur cette baleine-là?
C'est vraiment sur Ulysse. Peut-être qu'il ne savait pas son nom encore, parce que là, on l'a baptisé à Québec. C'est vraiment là-dessus?
Ulysse revient, ou une affaire de main, mais I'm back, get back. À chaque jour, il fait une toune sa baleine. Non, OK, à chaque jour, il fait une toune, OK, mais il y en a une sur la baleine.
Comme beaucoup d'artistes en confinement, comme Michel Rivard un moment donné, Damien Robitaille fait une toune par jour. Et là, il s'est inspiré de la baleine. Bon, on a l'histoire. Est-ce qu'on peut l'entendre?
On peut l'entendre, on l'a.
Tout de suite. C'est sur l'air d'une toune connue.
400 km.
Beatles.
Humpback, get back to Tadoussac. Humpback, get back to Tadoussac. Get back, boy.
Il est sur le cri de la baleine?
Ouais, oui. C'est donc bien bon. Bon, très, très bon. Alors, c'est Damien Robitaille. Évidemment, vous avez reconnu Get Back des Beatles. C'est bien ça? Je me trompe pas?
Oui,
hein?
T'as plein ça.
Alors, Damien Robitaille sur la baleine. Fait que Ulysse est encore en vie, puis dans le Vieux-Port à Montréal.
C'est ça.
Ce sont les dernières nouvelles. Si elle peut finir par pogner la route de Tadoussac, tant mieux. En passant, on vous répète, si vous la voyez, si vous êtes sur une embarcation, vous la voyez, vous pouvez l'admirer, mais vous ne l'approchez pas à 200 mètres.
Il y a des gens qui nous écrivent au 25-226 des théories pour quand Ulysse va se retourner. Bon, il y a quelqu'un qui dit qu'Ulysse est peut-être en attente pour prendre des écluses. C'est pas impossible. Et quelqu'un d'autre dit quand Montréal va flasher leur marde et elle va virer de bord en Simonac. Oui, c'est pas impossible. Prochain flashage. Oh!
Non, mais c'est vrai qu'à Montréal, il pollue plus dans le fleuve qu'à Québec. Si on peut pas se baigner à Baie-de-Beauport dans certaines journées, là, c'est à cause de. Ils l'ont dit, là, c'est à cause de Montréal. Là.
Combien de milliards de litres la dernière fois des résidus d'égouts qui ont pitché dans le fleuve, là, c'était dégoûtant.
Moi, je l'ai toujours dit, Montréal nous chie dessus. Je l'ai toujours dit. Sans preuve. Regarde. mais à la baie de Beauport, là, c'est pas des farces, là. Tu sais, à un moment donné, il y a des journées qu'on peut se baigner, d'autres pas. Puis les journées qu'on se baigne pas, la pollution, elle vient en haut, là.
Ouais.
Ça vient de Montréal parce qu'apparemment qu'au niveau du traitement des eaux, on serait plus avancé qu'eux autres. C'est pas encore parfait, là. On a jasé de la rivière Saint-Charles, justement, cette semaine. C'est pas parfait à Québec. Il y a des journées où ça peut déborder un peu. Mais ça a l'air que nos usines, ici, on traite pas mal, puis on pollue plus ben le Saint-Laurent, là. Alors qu'à Montréal, il y a aussi des bonnes choses. Ils ont avancé. C'est moins pire qu'avant. Mais il en rejette encore pas mal. Fait que c'est ça qui se ramasse chez nous, malheureusement. Parfois, 14h37. Il reste pas beaucoup de temps. Fait que Marie-France a une confession à nous faire. Commence. On verra jusqu'où ça va aller.
Bon. J'espère que vous m'acceptez quand même.
On verra.
Bon, je m'excuse un tout petit peu. Je vous ai caché quelque chose. Mais en même temps, je le savais pas. C'est que je sais pas si je voulais donner.
Donner quoi?
Ouais. Mais...
Le mot qu'on peut pas prononcer.
Comment?
Voldemort.
COVID.
T'as T'as pas eu la COVID?
Je sais pas, justement.
Mais voyons, Marie.
Non, mais c'est ça qui arrive, je le sais pas. Parce
ouais,
que
je sais pas.
Mais c'est ça qui arrive, je vais vous expliquer, OK? La dernière fois que je suis venue ici, j'allais super bien, là. J'étais top shape, comme d'habitude, je cours partout, j'étourdissais Jean-Simon, il était plus capable, gars. Vraiment, j'étais normale. Sauf que, quand je suis arrivée chez moi, quelques jours plus tard, j'ai comme commencé à avoir mal à la tête. Oh! Là, je me dis, bon, c'est pas grave, j'ai une grosse semaine, ça se peut. Mais là, à un certain moment donné, je me suis mis à faire de la fièvre, mais pas une grosse fièvre à 39, là. Pas 39,5, 40. Non, non, là. Je restais aux alentours de 38,6, 38,8, 38,9. Bon. OK, c'est tel que tel. C'est pas une grosse fièvre, là. Je veux dire, je restais à la maison, mais ce qui est arrivé par la suite, j'ai une première nuit, là, écoutez ça. J'ai mouillé mon lit. Quand j'ai mouillé, là, je pense qu'Ulysse aurait pu venir virevolter dans mon lit. Il était détrempé.
Trempé de sueur, là.
Ah, c'était dégueulasse. Et,
ça, je connais du monde, moi, qui ont eu la COVID-19, qui m'ont raconté ce symptôme-là.
Mais tellement
même affaire.
Je peux, habituellement, quand je suis malade, j'ai quand même assez d'orgueil que je suis capable de changer les draps, même si ça me prend une heure, je change mes draps. J'aime ça dormir dans un lit qui est propre. Et là, j'avais tellement mal, pas capable de me lever. Incapable de changer mes draps. J'ai juste réussi à trouver une parcelle de draps qui était sec encore. Je suis allée là et j'ai dormi là un bon 12 heures assez que ma mère, ça l'a tellement inquiété de pas me voir connectée pendant quasi 18 heures sur Messenger qu'elle a envoyé quelqu'un pour vérifier si j'étais encore en vie. Première nuit comme ça, j'en ai eu une deuxième comme ça aussi.
Hey.
Oui, là, des grosses nuits à suer, c'était dégueulasse.
Tu l'as peut-être eu, Marie-France. Ça ressemble à ça en maudit.
Hey, mais je sais pas s'il y a des gens qui ont eu mal, comme je l'ai vécu, rassurez-moi, 25226, ou rassurez-moi pas, soyez juste honnête.
Non, mais moi, j'ai des amis, moi, qui l'ont eu. Je connais à peu près 5-6 personnes qui l'ont eu, toutes des symptômes un petit peu différents. Personne n'a vécu la même expérience, mais ce que tu racontes là, je l'ai entendu, là, de gens qui ont eu la COVID-19. Il n'y a aucun doute, là, Marie.
Est-ce que
aucun
tes
doute.
Amis. Non, mais attends un petit peu, est-ce que tes amis ont eu ce symptôme-là? J'avais l'impression, là, que j'avais comme du ciment dans les jambes, j'étais pas capable de bouger. C'est comme si c'était pesant. Là, il y avait aucune position que couché debout à gauche à droite. Il y avait rien.
Non, ça fait peur,
rien.
Ça.
J'avais tellement mal, Sylvain. Là, juste, vous pouvez même pas vous imaginer. Là, je sais pas dans quelle position vous êtes là en ce moment. Là, ben ça, j'étais pas confortable. Ah, vous avez changé en ce moment, là. Ben, j'étais encore inconfortable, je vous jure, là. J'avais tellement mal. Puis quand j'ai réussi.
Mais t'es pas allé passer de test? Ça t'a pas passé par la tête de
dire, pas. Je vais aller
non, au début, j'ai appelé pour santé. Non, non, exactement. Puis pourtant, je leur ai expliqué que mon conjoint travaille dans un secteur où il y a potentiellement beaucoup c'est très à risque. On va le dire comme ça, là. Et j'ai expliqué également que j'avais un ami qui revenait de croisière. Écoutez, là, j'avais plein de facteurs qui pouvaient peut-être faire en sorte. Mais comme on était dans les débuts, j'ai commencé à avoir mes symptômes aux alentours du 16-17 mars. Au tout début, il n'y avait pas de test pour les gens qui ne revenaient pas de voyage. On ne nous priorisait pas. Exactement. Donc, je pensais...
Il aurait dû, en pensant que c'est une erreur, on le sait aujourd'hui, mais bon,
mais
ça serait une erreur. Il aurait dû dépister bien plus que ça. On aurait, parce que la transmission communautaire était commencée bien avant qu'il la soupçonne, là. Il aurait dû tester.
Ah, ça a duré longtemps. Généralement, une grippe, j'ai déjà eu ça, mais ça, j'ai jamais vécu ça à un tel point que j'étais même pas capable d'aller marcher.
Combien de temps au total avant que tu commences à être, mettons, pas pire, là?
Ah, je dirais un bon, quasi 3 semaines. Ben, les 2 premières semaines, oubliez ça, là. Je sortais pas de chez nous, j'étais brûlée, je faisais juste dormir, j'ai des problèmes, d'autres symptômes également, mais qui sont pas chic-chic à raconter. Fait qu'on va se garder une petite gêne à cette heure-là. Mais somme toute, quand j'ai pris ma première promenade, il a fallu que je m'assoie au banc qui était sur le bord de la promenade, que je prenne mon souffle. Mais en même temps, je veux dire, quelqu'un qui a le rhume, la grippe, on a le souffle court. Mais là, j'avais de la misère. Il a fallu que je retourne de bord.
Ça ressemble tellement à ça. Je ne comprends pas qu'ils ne t'aient pas testé. Voyons donc. Pourquoi ils ne t'ont pas testé? Parce que là...
Je sais pas. J'aurais-tu dû me faire tester? Ben, textez-moi 25226. J'aurais-tu dû... Admettons, là, vous auriez vécu tous mes symptômes. Auriez-vous été vous faire tester ou le feriez-vous maintenant? C'est moi qui capote le 25226.
Non.
Je
mais
sais pas si c'est
à
moi,
l'époque, hein? Tu as fait les démarches. Et anyway, Marie, oui. Fait que tu n'as rien à te reprocher. Ils n'ont pas voulu. Ça, je l'ai vu passer sur les médias sociaux. Il y a plein de gens aussi qui avaient full symptômes. Ils n'ont jamais voulu les tester.
Plein de gens 25226 qui dit quelqu'un qui écrit, je t'écoute, j'en ai des frissons, car nuit, enfin, les 2 premières, j'ai jamais été malade ainsi. J'ai manqué 3 jours de job. Waouh, moi, c'était au mois de février. C'est incroyable. Il y a quelqu'un qui me... 25
Il y a probablement plus de gens qui l'ont eu qu'on pense au début, là, février, mars, fort probablement. D'ailleurs, la science le dit, puis les médecins aussi, là, mais ils testaient pas au début, c'est parce qu'ils soupçonnaient pas que ça allait être aussi grave que ça. Après ça, je sais pas. À un moment donné, ils ont pas testé pour... Je pense qu'ils avaient peur de manquer de matériel.
Je devrais-tu me faire tester? Parce que reste qu'on a quand même été en contact, là. Jean-Simon, on était dans le même studio. T'étais là.
Ça l'a peut-être passé.
On le sait pas, là. C'est ça, je suis en train de me
dire. Peut-être passé
je l'ai peut-être eu.
Mais logiquement, avec la période d'incubation, là, t'étais ultra contagieuse. Si c'est la COVID, là, t'étais ultra contagieuse, puis tu l'as peut-être passé à moi, peut-être passé à Jean Fournier, peut-être à Sylvain, peut-être à plein de monde au FM 93. Puis comme la majorité des gens sont asymptomatiques, ben peut-être qu'on l'a eu puis qu'on le sait pas. Mais là, il y a les tests sérologiques, là, éventuellement, qu'on pourrait peut-être passer pour savoir si on l'a eu, voir si on a eu les anticorps ou quoi de même.
Je pense à le faire, là. Il y a quelqu'un qui, justement...
Ils ont commencé à le faire, hein.
Marie-France, je te suggère d'aller te faire tester.
Moi, je pense que oui aussi. À New York, ils ont commencé à le faire, là. Et selon les premiers tests, qui doivent être cependant confirmés. Vous savez qu'il y a beaucoup d'études, en passant, la COVID-19 nous enseignait ça. Bien des études qui ont été publiées, puis finalement, c'était pas vrai, parce qu'il avait pas été vérifié par les pairs. Fait que celle-là que je vous parle, ça a l'air qu'elle est pas encore, là, totalement, comment je pourrais dire ça, blindée, là. Mm-hmm. Mais ça a l'air qu'à New York, il y aurait entre 25 et 30 % des gens qui l'auraient eu. Ils sont pas loin d'un sur trois sur Manhattan. Selon les premières, tu sais, ils prennent des échantillons. Mettons, ils prennent 4000 personnes. Ils font vraiment des prises de sang. Puis là, ils peuvent déduire que si ce 4000 personnes-là, il y a 30 % qui l'ont, ben, c'est probablement comme ça à grandeur de Manhattan. Donc, beaucoup plus de gens qu'on pense l'ont eu. Ça, ils le savent déjà, mais de là à mettre des chiffres, 30 % à New York, ça veut pas dire que c'est comme ça ici, il faut faire attention. Mais ça se peut que tu l'aies eu, tes symptômes, c'est exactement ça. Ah. Le reste, tu l'as-tu donné à des collègues au 93 parce que t'as passé... pensez pas qu'on respectait pas les consignes, fait attention, on a été... correct avec les directives de Cogeco. Mais malgré tout, c'est jamais risque zéro, là.
Je veux juste dire que j'aime beaucoup vos diagnostics au 25-226. Là, j'ai peut-être quelqu'un qui me dit grippe musculaire. Mononucléose. Moi, j'aime ça. Des fois, en plus, là, on se fait du mal. Moi, j'aime ça aller voir mes symptômes sur Internet. Puis à chaque fois, je me ramasse avec une maladie incurable puis il me reste 24 heures à vivre.
Il faut être prudent.
Faire attention. Là,
mais ça serait quand même un bon test vu que là, on a toi qui a quand même eu des symptômes, qui était... Tu sais, on pourrait aller passer le test, voir qu'est-ce que ça donne.
Cool, hein? Ben oui.
Mais il y a
imagine
des cliniques.
Que toute l'équipe de Bouchard en parle. Vu la COVID. Mais ça se pourrait. Avec ce que tu as dit, là, ton chum qui est en milieu propice à te l'a refilé. Après ça, dans les deux semaines que tu as travaillé, là, avant le 12-13 mars, on n'avait aucune mesure de sécurité chez Cogeco. C'est normal. Personne n'avait mesure de sécurité.
C'est pas faute de Cogeco, là.
Personne n'avait.
Marie-France, t'es venu travailler, mais avec ton chum, comme Jean-Simon l'a dit, lui, il travaille dans un milieu à risque.
Mon ami revenait de voyage aussi.
T'avais ça aussi. Mais je pense que ça coûte 150 ou 200$, mais à Québec, il y a des cliniques qui l'offrent. On pourrait aller le passer, puis on pourrait voir si. Mais ça se peut. Moi, je pense que plus ça va, en Italie, on fait la même chose en passant en France, aux États-Unis. Plus ils testent des gens aléatoires, là. C'est pas juste ceux qui ont des symptômes. Ils se rendent compte qu'il y a plus de gens qui l'ont eu qu'on pense. Mais beaucoup ont pas eu de symptômes. Ce qui est pas une mauvaise nouvelle en passant. Vous allez dire, ça rend la COVID-19 encore, c'est encore plus grave. Ça veut dire que c'est plus contagieux. Ben oui. Ça veut dire que la COVID-19, c'est plus contagieux si plus de gens l'ont eu. Mais sur le taux de mortalité, ça demeure une bonne nouvelle. Ces chiffres-là se confirment. Je m'explique. Ça veut dire que c'est moins mortel qu'on le pense. Parce que si t'as 100 personnes qui l'ont eu, qui ont eu une maladie, parlons un peu de la COVID-19, là. Si 100 personnes ont une maladie, puis il y en a un qui meurt, ça fait un taux de mortalité de 1%. Mais s'il y en a 1000 qui l'ont eu, puis il y en a toujours juste un qui meurt, ben c'est plus 1%, là. Mm-hmm. Vous avez compris ça, là? Oui. Moi, quand je donne des chiffres, là, je suis pas bon, là. Mais que plus de gens l'ont eu, c'est pas nécessairement côté sanitaire une mauvaise nouvelle. Fait qu'on se fera peut-être tester. On verra bien.